Bienvenue à cette conférence sur l'épeautre, une solution face au problème du gluten. Parce qu'aujourd'hui, on a des gros soucis avec le gluten du blé. Donc, je vais vous expliquer en quoi l'épeautre peut être vraiment une alternative au problème du blé, tout en apportant les bienfaits des céréales. Alors, tout d'abord, une petite phrase, prière de Saint-Hildegarde. Tu as en toi le ciel et la terre. Tu peux faire de ta vie un ciel sur la terre. Une belle phrase à méditer et qui nous permet de nous recentrer sur ce que le Seigneur nous a donné dans sa création, tout ce qu'il a préparé pour nous afin que nous soyons en bonne santé et plein de joie et de vitalité, comme aime nous le rappeler Hildegarde. Alors l'épeautre, dont elle parle dans ses céréales, c'est pas la première dont elle parle dans son livre du Physica, elle en cite plusieurs, mais au passage, elle cite l'épeautre en nous disant que, tout de même, c'est la meilleure des céréales dans le sens où les autres ont des petits aléas suivant qu'on est malade ou qu'on est maigre. Le seigle, c'est pas génial si on est maigre, mais c'est bien pour les personnes qui sont la chair grasse parce que ça diminue leur graisse. L'avoine, elle est bien pour les gens en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades ou de nature froide, elle n'est pas bonne à manger. L'orge, elle nous dit que ça nous fait du mal, tout aussi bien pour les bien portants que pour les malades. Le millet, alors elle nous explique que le millet des oiseaux, alors là, il n'est pas bon du tout, il ramollit le cerveau de l'homme, il rend l'estomac tiède et paresseux, provoque la tempête dans les humeurs internes de l'homme. Et le millet à grappe est froid. Il donne peu de force à celui qui le mange, mais il ne fait pas de mal, comme l'autre millet, il ne provoque pas chez lui avec autant de force que le millet les humeurs malignes et les maladies. Donc, elle nous cite aussi le blé, et elle nous met en garde contre le blé, vous le verrez. Et l'épeautre, je vous en parlerai tout à l'heure. À la fin, ce sera le petit bonheur de la fin, ce sera ma conclusion, c'est ce que dit Saint-Hildegarde sur l'épeautre. Voilà. Mais tout ça pour dire que quand on lit tout ce qu'elle dit sur les céréales, il y a toujours un petit problème. Avec l'épeautre, il n'y en a aucun. Mais de quelle épeautre parle-t-elle? Ça, c'est important. On parle de trois sortes d'épeautres en français uniquement, parce qu'en fait, dans les autres langues, ils portent des noms distincts. Mais c'est vrai que leur dénomination latine les met dans le même panier. Le Triticum spelta, c'est le grand épeautre. Spelta veut dire vêtu. C'est donc un grain qui a son glume. Voilà, une fois qu'on enlève le glume, c'est-à-dire sa petite balle qui le protège dans l'épi, une fois qu'on a le grain qui est sorti de sa glume, eh bien, il est vêtu, il a le son qui adhère à la graine. Ensuite, il y a le moyen épeautre, dont on entend peu parler finalement, qu'en Italie, on a un petit peu abandonné pour faire des pâtes et qu'on a remplacé par le blé dur pour faire la semoule et les pâtes. Donc le moyen épeautre s'appelle Triticum duococcum. Et puis vous avez le petit épeautre, l'engrain en fait en français, qui s'appelle le Triticum monococcum. En fait, ces trois espèces d'épeautres sont différentes. On va revenir sur le petit épeautre tout à l'heure. Voilà, le moyen épeautre, on n'en parlera pas beaucoup. Il est peu utilisé en Italie, mais c'est vrai qu'autrefois, les Italiens faisaient les pâtes avec du farro. Et ils continuent, les très bonnes pâtes italiennes sont faites avec le farro. Et cette dénomination, en fait, ne plaît pas aux taxonomistes qui étudient les plantes en fonction de leur aspect extérieur. C'est une dénomination qui a été donnée par Linné au XVIIIe siècle. Linné au XVIIIe siècle leur a donné aux trois épeautres le nom de triticum, comme le blé. Le blé, c'est un triticum. Toutes les variétés de blé sont des triticums. Voilà. Et